Vous écoutez, on lit pour vous.
Demander de l'aide au travail. Un texte d'Alain Gosselin, paru le 21 janvier 2025 dans La Presse. Amélie, une lectrice, demande « Au travail, je me sens débordée et j'accumule des retards, mais je n'ose pas en parler à mon patron. Même si je suis récente à ce poste, je veux lui montrer que je suis fiable et compétente. » Je tiens à cet emploi et je veux m'améliorer. Comment faire pour surmonter mes angoisses? La situation vécue par Amélie est assez courante. Elle peut découler d'un patron qui néglige d'évaluer adéquatement la charge de travail de ses employés ou qui n'a pas su créer un climat de sécurité psychologique suffisant pour rendre ces derniers à l'aise de demander de l'aide. Amélie ne semble pas montrer du doigt son patron. Elle est plutôt tournée vers elle-même. Par ambition, gêne ou manque de courage, elle reconnaît son hésitation à demander de l'aide à son patron. Mettons-nous à sa place. Montrer ses faiblesses risque d'être mal perçu. Intuitivement, elle comprend qu'être compétente, autonome et responsable sont des qualités valorisées au travail. Alors, avouer qu'elle se sent dépassée et en perte de contrôle peut représenter un coût important sur le plan personnel, d'autant plus qu'étant nouvelle dans son poste, sa crédibilité n'est pas encore pleinement établie. Pour éviter de s'enliser dans ce problème, Amélie aurait intérêt à se poser trois questions. Pourquoi j'hésite à demander de l'aide? Demander de l'aide au travail est un comportement qui devrait aller de soi. Plus le travail est exigeant, plus il est utile de se serrer les coudes et de s'entraider au travail. Alors, comment expliquer que, si souvent, les personnes comme Amélie ont tendance à garder le silence en situation de surcharge, même si cela risque de les faire craquer sous la pression? Plusieurs raisons peuvent motiver ce comportement contre-intuitif. Ces personnes considèrent qu'il est important de protéger ou de contrôler l'image ou l'opinion que leur patron ou leurs collègues se font d'elle. Il est vrai que demander de l'aide peut être perçu comme une forme de dépendance ou d'incapacité à bien effectuer son travail. Il est possible aussi qu'elles se sentent mal à l'aise de déranger ou coupables à l'idée de surcharger leur patron ou leurs collègues. La peur du rejet et le risque de perdre la face, advenant un refus à leur demande d'aide, peuvent également les freiner. Enfin, elles pourraient percevoir le soutien reçu comme une dette envers la personne qui les a aidés ou comme de l'ingérence dans leur travail, donc une perte d'autonomie. Toutes ces réactions et ces émotions sont légitimes et vraisemblables, mais Amélie ne doit pas laisser ses peurs la freiner. Ne pas demander de l'aide ou refuser de l'aide peut la conduire à une impasse, à de l'isolement et possiblement à une piètre estime d'elle-même. Aussi, cela fausse la réalité et lui nuit. Le fait qu'elle ait besoin d'aide peut être un indice qu'autour d'elle, on ne voit pas la précarité ou l'urgence de sa situation. Qu'est-ce que je gagnerais à demander de l'aide? Demander de l'aide est une démarche qui reflète une force et non une faiblesse. C'est susciter des efforts de coopération qui permettent éventuellement de renforcer la relation avec son patron ou ses collègues. C'est montrer une volonté de tirer parti des compétences des autres, de bénéficier de leurs conseils et de leur expérience pour trouver des solutions efficaces et rapides. C'est aussi un signe de maturité professionnelle qui démontre qu'Amélie est investie et proactive, qu'elle cherche à apprendre et à s'améliorer. Également, elle ne devrait pas sous-estimer la propension de ses collègues à vouloir l'aider, car dans un climat de travail sain, la plupart des gens sont naturellement enclins à venir en aide à leurs collègues. Et le fait d'accorder de l'importance à leurs conseils et à leur expertise devrait les flatter et les aider à se sentir utiles et reconnus. Comment devrais-je m'y prendre? En premier lieu, il est important pour Amélie de faire ses devoirs et d'analyser sa situation. Il lui faut être au clair sur sa compréhension de son rôle et de ses priorités. elle devrait aussi porter un regard critique sur ce qui a pu contribuer à ces difficultés perçues, ces méthodes de travail ou les engagements pris au départ qui s'avèrent trop ambitieux, sans oublier ce qui va bien et les tâches ou responsabilités pour lesquelles elle a un sentiment d'efficacité personnelle. Cette réflexion l'amènera à être proactive dans ses efforts pour corriger sa situation et à réfléchir aux autres solutions possibles. Ensuite, Amélie a intérêt à ne pas laisser la situation se détériorer. Exposer la vraie situation à son patron et admettre qu'elle se sent surchargée, voire dépassée, est un geste courageux qu'elle aurait avantage à assumer. Une autre option, moins risqué, et de requérir l'aide d'une collègue plus expérimentée qui a probablement déjà été confrontée à une situation similaire. Amélie pourrait y trouver une ressource plus disponible pour l'accompagner dans la reprise en main de son travail. Si tel est le cas, il est impératif qu'elle puisse retourner l'ascenseur et lui apporter de l'aide en retour. Finalement, elle a besoin de formuler sa demande d'aide de manière claire et concise. Trois points de discussion sont incontournables. Son besoin de soutien, comment elle a essayé d'améliorer sa situation jusqu'ici et le type d'aide dont elle pourrait bénéficier. Après cela, tout est dans la façon d'aborder la rencontre, parler avec sincérité, être authentique et être reconnaissant. C'était « Demander de l'aide au travail », un texte d'Alain Gosselin, paru le 21 janvier 2025 dans La Presse. Se voir entre les pages d'un livre. Une lecture asexuelle de « Traverser la nuit » de Marie Laberge. Un texte d'Émilie Goula, paru le 29 mai 2023 dans Voix plurielle. Introduction. Dans la société contemporaine, la sexualité obligatoire exige notre conformité. Selon Ella Predibilo, la priorisation du sexe s'étend sur plusieurs niveaux. Les rapports sexuels reçoivent une plus haute importance que d'autres activités sociales parce qu'ils sont jugés bons, naturels, intégraux, à la construction de soi et nécessaires à la survie d'une relation romantique. Cette pression sociale, aussi connue sous le néologisme « allonormativité », contraint les individus à assumer des identités sexuelles ou à participer à des actes sexuels, même non désirés. Il existe une supposition courante selon laquelle tout le monde ressent de l'attirance sexuelle. Si une personne ne correspond pas à cette norme, la société allonormative voit en son asexualité un signe de trouble moral, médical ou psychologique. Par conséquent, les personnes asexuelles sont repoussées dans les marges. L'asexualité, ou l'adjectif asexuel, désigne une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle. Historiquement, la sexualité a été associée à un trouble mental, une condition hors l'état naturel. De nos jours, plusieurs idées fausses continuent de circuler au sujet de l'asexualité. Comme d'autres identités queer, les personnes asexuelles font face à la discrimination, à l'effacement, à la pathologisation, à l'abus ou au viol correctif. Elles reçoivent souvent des commentaires méprisants ou des attitudes sceptiques qui contestent la validité de leur identité. Tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Tu vas changer d'avis. Donc, t'es célibataire? As-tu subi un traumatisme dans ton passé? Tu as peur, c'est tout. Entre autres questions similaires. De plus, leur appartenance à la communauté queer est parfois remise en question selon la croyance qu'elles sont confrontées à moins d'oppression. Ce sont de nombreux exemples d'aphobie, un concept voisin à l'homophobie, qui peut être vécu non seulement dans les espaces hétéronormatifs, mais aussi dans les milieux queer. Puisque l'asexualité est invisibilisée et invalidée face à la sexualité obligatoire, il est important d'approfondir notre compréhension de cette identité. Pour mieux saisir la diversité des expériences asexuelles, il faut préciser que certaines personnes asexuelles peuvent ressentir de l'attirance sexuelle sous des conditions interpersonnelles spécifiques, comme après avoir développé un lien émotif avec quelqu'un. Le modèle d'attirance divisée, conçu par la communauté asexuelle pour mieux définir cette orientation, établit la distinction entre l'attirance romantique, une proximité affective mais non charnelle, et l'attirance sexuelle, un sentiment qui incite le désir d'entreprendre des actes sexuels avec une autre personne. Ce modèle rend possible la flexibilité de l'identité sexuelle et reconnaît la palette d'expériences possibles. Quelqu'un pourrait être, par exemple, asexuel et biromantique, asexuel et hétéro-romantique ou encore asexuel et aromantique. Dans le cadre de cet article, je me concentrerai sur la représentation de l'asexualité sans oublier qu'elle existe parfois en relation avec d'autres identités queer. Depuis les 5 dernières années, on commence à apprécier une inclusion plus grande de personnages asexuels dans la littérature anglophone, particulièrement dans la littérature jeunesse. Auparavant, la représentation de l'asexualité dans les œuvres de fiction était stéréotypée et nuisible à la communauté asexuelle. Dans les séries de science-fiction, Doctor Who et Sherlock Holmes, les protagonistes sont considérés trop intellectuels pour vouloir satisfaire un désir charnel, ce qui renforce le stéréotype selon lequel les personnes asexuelles sont en grande majorité des génies masculins. Dans d'autres cas, les personnages moins motivés par le sexe sont décrits comme méchants, déviants ou brisés, ou sont comparés à des meurtriers, des extraterrestres, des créatures mythiques, des robots ou des personnes traumatisées, toutes des associations péjoratives qui lient un manque d'attirance asexuelle à l'anormalité ou à la non-humanité. La représentation de l'asexualité prend une valeur encore plus péjorative lorsque ces mêmes personnages sont sauvés ou complétés par une relation romantique ou sexuelle. Ces représentations courantes sont limitées et imprécises, voire offensantes. Des exemples nuancés de l'asexualité s'avèrent donc nécessaires pour arriver à une visibilité plus juste. Les représentations des personnages asexuels sont peu nombreuses dans la littérature francophone. Bien que certains récits nous offrent des personnages asexuels, leur orientation sexuelle est rarement explicitée. Ainsi, comme l'explique Isabelle Boisclair, la narratrice de « L'envie » de Sophie Fontanelle, choisit de ne plus coucher avec les hommes pendant plusieurs années afin de se distancier de la sexualité obligatoire et de la possession sexuelle associée à la masculinité. Le choix ressort d'une résistance à la société fondée sur la sexualité obligatoire et d'un désir de réclamer son propre corps. Alors que cette représentation asexuelle ne correspond pas à sa définition actuelle, le thème de l'asexualité temporaire s'inscrit en filigrane. L'autrice française Mélanie Fazi aborde également le sujet de l'asexualité dans son œuvre de non-fiction « Nous qui n'existons pas », où elle n'adopte aucune étiquette pour raconter son désintérêt de vivre en couple et ses frustrations par rapport à la sexualité normative. Dans ces deux exemples, des sujets asexuels semblent présents de façon subtile, mais ils ne sont pas clairement désignés comme tels. C'est ainsi qu'il revient au lectorat d'identifier la représentation implicite de l'asexualité. Dans cet article, je présenterai quelques stratégies de lecture queer qui me permettront de déceler les traces textuelles de l'asexualité qui colore le roman « Traverser la nuit » de Marie Laberge. Une lecture asexuelle de ce roman rend visible l'asexualité probable de la protagoniste. Victime d'abandon et de maltraitance depuis sa naissance, Emily, une femme solitaire et silencieuse dans la cinquantaine, consacre sa vie aux soins des autres personnes. À plusieurs reprises, Emmy se critique durement, croyant qu'elle ne vaut rien. Tout au long du roman, elle ne se défend pas contre les personnes qui la harcèlent verbalement ou physiquement et résiste à toute forme d'attachement, que ce soit des personnes qui la respectent ou des lieux transitoires. Le glissement narratif entre le passé et le présent d'Emmy permet au lectorat de mieux comprendre la totalité de ses expériences de vie et ses relations avec autrui. Qui plus est, la focalisation interne de la narratrice à la troisième personne divulgue l'intériorité d'Emmy d'une manière qui confond souvent l'identité de la narratrice avec celle de la protagoniste, mais qui fournit un accès continuel à ses pensées intimes au cours de la lecture. J'aimerais mettre de l'avant l'attitude d'Emmy envers la sexualité et ses expériences sexuelles, la socialité non sexuelle avec d'autres femmes et l'emploi des éléments narratifs du récit comme une métaphore pour l'invisibilisation de la sexualité. Toutefois, il faut éviter d'assembler la sexualité d'Emmy avec un refoulement des abus sexuels dont elle est victime. D'après des définitions plus récentes à ce sujet, l'identité asexuelle ne se manifeste pas en conséquence des traumatismes, mais se construit selon des impressions uniques et variées de l'attirance sexuelle. Bien qu'un lecteur ou une lectrice puisse interpréter l'asexualité comme une réponse aux agressions répétitives que vit la protagoniste, je pense que l'asexualité est un élément immuable de l'identité. Il est néanmoins important de reconnaître que les abus sexuels exercent un effet violent sur la psychologie des survivants et des survivantes. Vous écoutez « Se voir entre les pages d'un livre, une lecture asexuelle de Traverser la nuit » de Marie Laberge, un texte d'Émilie Goula, paru le 29 mai 2023 dans Voix plurielle. Les stratégies de lecture queer. La signification d'un texte dépend surtout de l'intervention d'un lecteur ou d'une lectrice. Selon Chaline Claggett, la narratologie doit considérer le contexte hors du récit et la façon dont la subjectivité d'un tel lectorat influence son interprétation, notamment lorsqu'il s'agit des perspectives féministes et queer. Les lecteurs et les lectrices cherchent parfois la représentation de soi dans un récit. Une interprétation subjective reflète alors mieux la diversité de leurs expériences ou de leur identité personnelle. Une étude de Jonathan Adler sur la santé mentale et l'identité narrative, le récit interne qu'une personne construit à propos de soi-même pour accorder un sens à sa vie, révèle que le thème d'agentivité dans les récits personnels des patients et des patientes en psychothérapie augmente progressivement au cours de la thérapie et concorde avec une amélioration de la santé mentale. Cela met en relief l'importance de la conception des récits où le sujet a l'occasion de vivre à sa façon. En général, les personnes ont tendance à vouloir saisir le pouvoir des narrateurs et des narratrices à commenter et à accorder un sens aux événements vécus par les protagonistes. Ainsi, nous retenons que l'écriture de récits personnels permet aux individus historiquement marginalisés de retrouver une agentivité à l'intérieur des systèmes oppressifs et que le récit est un outil d'autoréalisation. Quant à la question de la sexualité, la rédaction ou la lecture d'un récit où on peut s'identifier à un ou à plusieurs aspects d'un personnage favorise une meilleure compréhension de soi. Si la notion du personnage est, selon nous, peu abordée par la narratologie traditionnelle, un lien métaphysique se tisse entre le lectorat et les personnages afin de produire une identification avec elle, surtout lorsque le lecteur ou la lectrice est à la recherche d'une représentation textuelle de soi. L'identité narrative est alors comparable au concept narratologique de la caractérisation directe de Gérald Prince. Il s'agit des moments textuels où les traits d'un personnage sont décrits par le narrateur ou la narratrice ou par le personnage lui-même. Si certains aspects identitaires d'un personnage de fiction ne sont pas bien définis, le lecteur ou la lectrice s'implique davantage dans sa caractérisation pour compléter son portrait. Dans notre société hétéronormative, on s'attend à ce que le lecteur ou la lectrice implicite adhère à des conditions normalisées liées à l'identité, par exemple, à la matrice hétérosexuelle ou au genre sexuel binaire. Quand un lecteur ou une lectrice de chair et de sang se défait de ces normes, une lecture subjective est possible pour mieux s'identifier au contenu du texte et aux personnages qui peuplent le récit. Les lecteurs et les lectrices ont notamment tendance à s'approprier des textes en les rendant significatifs pour elles-mêmes. Plus on est marginalisé, moins on se trouve représenté et plus on doit s'efforcer de s'insérer dans les textes lors de la lecture. Cela arrive plus souvent pour les traits fondamentaux qui nous définissent en tant qu'êtres humains, tels que nos croyances, nos désirs, nos passions et notre orientation sexuelle. Ainsi, les lecteurs et les lectrices queer appartiennent à une communauté interprétative spécifique parce qu'elles partagent l'expérience discriminatoire d'un monde hétéronormatif. Par ailleurs, Sean O'Connor constate que les lecteurs et les lectrices queer sont particulièrement aptes à réinterpréter l'art parce qu'elles sont habituées à devoir s'insérer dans les textes qui pratiquent l'exclusion. De nos jours, malgré une inclusion marquante des diverses identités sexuelles dans la littérature et les médias, cette inclusion reste minime en comparaison à l'allo-hétérosexualité. Pour dévoiler la représentation implicite de l'asexualité dans la littérature, il faut se fier aux stratégies de lecture queer. Même pour les textes apparemment allo-hétéronormatifs, un certain degré de queerité peut s'installer lors de la lecture. Cela engendre une suspension et une contestation des paramètres normaux pour permettre une interprétation plus queer. De même, dans certains contextes, comme les périodes historiques de censure, les auteurs et autrices peuvent aussi se servir des stratégies d'écriture qui communiquent une signification queer sans la nommer explicitement. Suivant cette logique, une interprétation queer ou non sont toutes les deux possibles pour un même texte en fonction des stratégies de lecture et d'écriture appliquées. La sensibilité à une identité particulière augmente la probabilité de faire une interprétation queer s'il y a des éléments qui font appel au lectorat. Afin d'inclure davantage l'asexualité dans la littérature, on peut également se fier à une approche qui comprend l'identification de résonance asexuelle, c'est-à-dire un caractère, une sensibilité ou une implication qui réoriente l'identité statique de l'asexualité à sa présence subtile dans un lieu donné. Selon ce modèle, un élargissement de la définition de l'asexualité contribue à sa reconnaissance dans des sources inattendues comme l'asexualité politique, née de la libération féminine, et l'asexualité artistique. sans qu'une catégorisation explicite d'un personnage soit nécessaire. Il est possible d'entreprendre une analyse qui prenne en compte des moments éphémères et des traces d'asexualité. Ce genre d'approche subjective donne accès à la représentation de l'asexualité qui passerait autrement inaperçue et encourage une identification du lectorat au récit. Je vous rappelle que vous écoutez « Se voir entre les pages d'un livre », une lecture asexuelle de « Traverser la nuit » de Marie Laberge, un texte d'Émilie Goula, paru le 29 mai 2023 dans Voix plurielle. La résistance à la sexualité obligatoire et aux relations sexuelles. Dans l'incipit du roman de Laberge, Amy décide de quitter son conjoint alcoolique et violent et de s'établir ailleurs. Cet événement marque la fin de sa soumission au tyran de sa vie et l'incitation de son voyage à l'auto-réalisation, car elle n'accepte plus d'être un objet de plaisir charnel et de dédain émotionnel pour un homme. Le début du récit montre donc la prise en charge de l'agentivité de la protagoniste. Pour Amy, se débarrasser de cet homme agressif avec qui elle habite est une étape vers la liberté. Citation. Rien n'est plus léger que quitter Ghislain. S'éloigner de ses brutales exigences, qu'elles soient de bière, de sexe ou de pizza, ne représente aucun sacrifice ou arrachement. » Fin de citation. Sa manière blasée d'incorporer le sexe dans sa liste traduit son attitude générale à l'égard du sexe. La protagoniste minimise son importance et considère qu'il est aussi négligeable qu'une mauvaise nutrition. La narration ultérieure dépeint ensuite les relations et les événements qui ont mené au résultat décrit dans ce premier chapitre. La première fois qu'Amy rencontre Ghislain, il évoque, citation, « le rappel impérieux du sexe dans les vibrations de la moto », fin de citation, et il lui demande si, citation, « ça donne le goût en crisse », fin de citation, mais elle ne songe pas au sexe à ce moment précis. Au lieu de ressentir une attirance sexuelle, elle s'intéresse plus au paysage que Ghislain peut lui montrer lors de leurs escapades à moto. Citation. Amy ne trouvait pas. Mais si le prix à payer était aussi simple et rapide, ce n'était pas au-dessus de ses moyens. Tant que Ghislain ne s'attardait pas, elle pouvait l'endurer. Fin de citation. Cette citation révèle que le sexe est un acte qu'Amy est prête à supporter, une activité que les hommes qu'elle croise désirent et qu'elle leur accorde sans vraiment en avoir envie. Pendant son adolescence, Amy travaille dans un casse-croûte, où un client régulier lui offre des pourboires importants en échange de relations sexuelles. Citation. Comme toujours, quand il était question de sexe dans sa vie, elle l'avait laissé faire sans broncher. Elle laissait cet homme marié se soulager en murmurant qu'elle aimait ça. Fin de citation. Au cours de sa vie, bien qu'Amy ait des relations sexuelles, elle n'est jamais motivée par le sexe. Son désintérêt mène toutefois à la question du consentement. Amy n'est pas nécessairement forcée de participer aux relations sexuelles avec les hommes de sa vie, mais elle ne leur donne pas son consentement enthousiaste non plus. En effet, elle est limitée à ce choix parce qu'elle ressent une pression à répondre aux besoins charnels des autres et semble considérer son corps comme un objet à donner, ce qui reflète la sexualité obligatoire. Si cette norme laisse croire que le sexe est naturel et universel, une personne qui ne préfère pas participer à des actes sexuels est poussée à se conformer au système. Amy doit prétendre qu'elle désire ce contact sexuel parce qu'elle n'arrive pas à reconnaître un modèle alternatif. La possibilité de son asexualité est donc ignorée. Pour combattre la dominance de l'allosexualité, C.J. Chazen suggère un recadrage de l'absence de désir qui normalise la possibilité d'une relation non sexuelle afin d'éliminer les conséquences du sexe comme obligation ou transaction. Si le comportement sexuel était moins imposé, que ce soit aux personnes allosexuelles ou asexuelles, toute forme de sexualité mènerait à une affirmation de soi. Dans le cas d'Amy, cela lui aurait permis de refuser ses actes sexuels non désirés avec les hommes qui la contraignaient parce que son asexualité aurait été une identité reconnue par la société. Alors que les partenaires masculins d'Amy s'avèrent presque hypersexuels, les hommes peuvent aussi être victimisés par les effets de la sexualité obligatoire. Il importe donc de ne pas rejeter la possibilité de l'asexualité masculine. La pratique de l'allo-hétérosexualité est souvent imposée chez les hommes selon la présomption qu'ils sont programmés à jouir du contact sexuel. La supposition, selon laquelle la sexualité est un aspect intrinsèque de l'identité, conteste la masculinité des hommes qui ne se trouvent pas à l'intérieur de ces normes. De ce fait, la dénormalisation de la sexualité obligatoire peut également influencer la manière dont les hommes interagissent avec la sexualité globalement, ainsi qu'avec leurs relations sexuelles et non sexuelles. Au moment où Amy doit se faire avorter à la suite d'une grossesse inattendue, le lectorat apprend qu'elle n'éprouve pas l'envie d'avoir des enfants. Citation. Elle est toutefois certaine que se reproduire n'a jamais constitué un désir. Finalement, la seule chose qu'elle a jamais vraiment voulu, c'est la paix. Fin de citation. Dans ce cas, son manque d'intérêt pour la reproduction n'est probablement pas lié à son asexualité, puisque la sexualité et la parentalité ne sont pas des notions incompatibles. Le désir d'Amy semble plutôt dirigé vers un concept abstrait. La paix, l'indépendance et la liberté au lieu des plaisirs corporels, charnels et biologiques. La quête d'Amy est alors de retrouver un espace où elle peut résister aux demandes de son entourage et réclamer son autonomie. Ses priorités particulières sont aussi évoquées dans une introspection qui exprime son apathie pour tout ce qui relève de la sexualité. En dehors de la tranquillité, rien n'avait fait l'objet du moindre désir, surtout pas le sexe ou ce qu'elle en savait, et encore moins l'amour, cet étrange rapport à l'autre qui engendre tant d'effets secondaires. Quand, au cinéma ou à la télévision, elle voyait des gens s'agiter en se frottant l'un contre l'autre avec plus ou moins de conviction, elle en éprouvait au mieux de l'ennui. Cette indifférence s'oppose à la préoccupation sexuelle qu'elle perçoit chez les autres. Le parallélisme « elle voyait des gens et elle en éprouvait de l'ennui » dans la dernière phrase illustre non seulement son attitude envers la sexualité, mais aussi ses difficultés à bâtir des liens émotifs avec autrui. De ce fait, Amy reconnaît sa différence par rapport à la norme sexuelle dont elle est familière. Au sein de la communauté asexuelle, un phénomène populaire consiste à remplacer le sexe avec d'autres idées ou objets que les personnes asexuelles préfèrent. Une étude récente sur le suivi oculaire chez les individus allo et asexuels a corroboré l'hypothèse selon laquelle les sujets allosexuels focalisent plus longtemps sur les images érotiques que les sujets asexuels. En effet, la sexualité n'est pas un sujet provocant pour de nombreuses personnes asexuelles. Mais Amy est consciente de la sexualité presque omniprésente dans la société, ce qui joue un rôle marquant dans sa vie personnelle. Vous écoutez Se voir entre les pages d'un livre, une lecture asexuelle de Traverser la nuit de Marie Laberge, un texte d'Émilie Goula, paru le 29 mai 2023 dans Voix plurielle. Après s'être échappée de l'orphelinat, où elle a été agressée à plusieurs reprises, Amy réfléchit à sa sexualité dans un passage qui établit son asexualité apparente. Citation. Pour Amy, la sexualité était une chose cachée, contraignante et désagréable, qui ne faisait du bien qu'à l'autre et qu'elle endurait pour avoir la paix. En silence. Elle n'avait jamais éprouvé le moindre désir, encore moins du plaisir. Tout ce qui touchait au sexuel constituait une sorte de laisser-passer pour survivre. Grâce à cette envie qui tenaillait les hommes, elle obtenait un toit et une sécurité limitée. À ses yeux, la chose demeurait un mystère opaque, mais pratique. Fin de citation. Sans que le sexe lui déplaise complètement. Amy éprouve un manque de désir par rapport aux attentes habituelles des pulsions sexuelles. Comparativement aux hommes dans le roman qui l'exploite, Amy traite le sexe comme un moyen pour arriver à une fin, une tâche, pour ainsi dire. Il existe certainement des personnes asexuelles qui peuvent se livrer à des rapports sexuels pour plusieurs raisons, telles que faire des enfants ou échanger du plaisir avec son, sa partenaire, entre autres. Dans la communauté asexuelle, les attitudes envers le sexe sont multiples. La palette asexuelle inclut les descripteurs positifs, neutres, négatifs ou même repoussés complètement. Amy ne semble pas ressentir le désir d'avoir des rapports sexuels avec une autre personne, ce qui traduit souvent une attirance sexuelle, mais elle est persuadée par son entourage masculin et allosexuel de se conformer à la norme. Soulignons que sa vision négative de la sexualité est en partie une conséquence de ses traumatismes, comme lorsqu'elle fut agressée par un prêtre pendant son enfance. Selon Amy, la religion est une force opprimante qui la réduit au silence. Citation. La religion qui se proclame propriétaire de la mort et qui condamne la sexualité est un leurre, une sorte d'ordre inventé pour assagir les révoltes, étouffer les cris. Amy en est persuadée. Fin de citation. Chaque fois qu'elle est obligée d'avoir des rapports sexuels contre son gré, son agresseur pardonne ensuite ses péchés d'impureté. Selon la doctrine de l'Église chrétienne en ce qui concerne la sexualité, celle-ci est seulement tolérée dans un contexte hétérosexuel, surtout entre un homme et une femme mariée, et toute forme de sexualité qui s'éloigne de cette norme est jugée déviante ou immorale. Il est contradictoire qu'une figure religieuse qui perpétue cette idée peu judicieuse soit aussi celle qui agresse sexuellement une petite fille. Un prêtre ou une sœur est censément asexuel, conformément à son vœu de chasteté, mais l'abstinence des religieux et des religieuses n'est pas équivalente à l'orientation asexuelle. Certaines religions, y compris le catholicisme, constate que c'est un instinct naturel de vouloir participer aux actes sexuels et qu'il faut éviter de succomber à la tentation. Elles imposent des vœux de chasteté aux religieux et aux religieuses et aux jeunes non mariés sous couvert que l'abstention est une décision vertueuse. D'une certaine manière, la culture de pureté et les programmes éducatifs qui enseignent l'abstinence renforcent la sexualité obligatoire car ils oublient l'existence des personnes qui ne ressentent pas ce genre d'attirance. Ils assimilent la chasteté à l'asexualité, sans reconnaître que la chasteté est un comportement conscient et que l'asexualité est pour certains et certaines une identité sexuelle. Peu importe le vœu de chasteté du prêtre qui agresse Amy, Il agit sur des pulsions sexuelles et ne se prête donc pas à une étiquette réellement asexuelle. En revanche, il accuse sa victime d'impureté et la critique de ne pas se conformer aux attentes de la sexualité normative. Pour une socialité non sexuelle. Puisque les rapports sexuels ne sont pas une priorité pour un grand nombre de personnes asexuelles, la sexualité promeut d'autres méthodes pour se lier avec autrui. Contrairement aux stéréotypes de la froideur ou de la frigidité, mots péjoratifs typiquement associés à la sexualité diminuée des femmes, les personnes asexuelles, romantiques, figurent dans des relations interpersonnelles affectives et vitales. C'est en écho à cette relationnalité alternative que le roman de la Berge propose une socialité non sexuelle qui se déploie dans les personnages féminins en particulier. Le désintérêt qu'éprouve Amy envers les relations sexuelles n'élimine pas sa capacité à aimer. À l'époque où Amy habitait dans un orphelinat, elle prenait soin de Mimine, une petite fille inoue à peine plus âgée qu'Amy, qui finit par mourir de tuberculose. Quand la nuit était trop froide, Amy tenait son amie contre son corps dans son lit pour la réchauffer. En échange de soins, Mimine a appris à Amy à lire. Cette intimité, décidément non sexuelle, est une antithèse à l'abandon qu'Amy ressent ailleurs. Dans une entrevue, la Berge fait des remarques sur l'amitié entre Amy et Mimine. Citation. Et là, en tenant Mimine, pour la première fois, elle a un lien émotif avec quelqu'un, quelqu'une, qui a recours à elle et qui lui donne la chaleur qu'elle-même lui donne, c'est-à-dire qu'il y a un échange et il y a un lien. Et ça, ça fait d'elle la personne humaine qu'elle est. Fin de citation. Cet exemple soutient que les relations non sexuelles doivent être mises en valeur afin d'éviter la tendance sociétale à donner une plus haute importance aux relations sexuelles. Ce lien amical se multiplie avec d'autres personnages dans Traverser la nuit. C'est le cas entre Amy et Jackie, une femme âgée et mourante dont Amy prend soin dans un centre d'accueil. Les deux femmes développent une forte amitié, au point où Jackie laisse son héritage à Amy au lieu de le léguer à son propre fils. Les mots de Jackie habitent Amy tout au long du récit. Ses rappels et ses conseils lui apprennent à vivre pour elle-même et à ne pas se sacrifier pour celles qui ne la respectent pas. La Berge commente cette relation ainsi. Citation. Ce que Jackie fait, c'est quand même lui montrer que l'on peut se révolter, que l'on peut refuser, que l'on peut dire non. Et c'est pour ça qu'elle ferme la porte de cet appartement au départ du roman. Fin de citation. Grâce à Jackie, la valeur d'Amy est enfin reconnue par une figure maternelle qui remplace celle dont Amy est privée antérieurement. En dernier lieu, Amy rencontre la propriétaire Raymonde Pépin, qui fait preuve d'une grande compassion dès le moment où elle arrive chez elle. Raymonde s'avère très discrète et n'incite pas Amy à divulguer son histoire avant qu'elle ne soit prête. Quand Amy fuit l'église où Raymonde l'a invitée à un comité d'accueil aux réfugiés, la protagoniste revit ses traumatismes occasionnés par l'espace. Raymonde ne la force pas à rester sur place et offre de l'amener à la gare, ce qui accorde à Amy une liberté et une agentivité. Par contraste avec les relations qu'Amy entretient avec les hommes, celles avec les femmes sont enrichissantes et guérissantes sur le plan psychologique. Autrement dit, elles partagent une solidarité et une amitié qui ne sont détériorées ni par le désir charnel, ni par les attentes inégales. C'est surtout lors de ces relations qu'Amy se sent en sécurité, parce qu'elle peut vivre son asexualité sans jugement ni pression. De plus, Ces exemples réussissent à briser le stéréotype selon lequel les personnes asexuelles seraient trop refoulées pour laisser entrer une autre personne dans leur cercle intime. Avant de rencontrer ces deux femmes à l'âge adulte, Amy n'était jamais bénéficiaire du care, soin, qu'elle avait montré à Mimine. Même les soins qu'Amy offre à ses clients au centre d'accueil ne sont pas réciproques jusqu'à ce qu'elle rencontre Jackie. Son manque de relationnalité non sexuelle pendant la majeure partie de sa vie provoque une hésitation devant de nouvelles connaissances, mais Amy arrive finalement à accepter le care des autres. Elle se rend compte qu'elle mérite, elle aussi, de l'amour inconditionnel. Nous constatons donc que le vide qu'Amy ressent provient des soins inadéquats pendant son enfance et de l'absence de socialité affective qu'elle retrouve finalement chez Jackie et Raymond. Vous écoutez « Se voir entre les pages d'un livre », une lecture asexuelle de « Traverser la nuit » de Marie Laberge, un texte d'Émilie Goulat paru le 29 mai 2023 dans Voix plurielle. La communication métaphorique et narratologique de l'asexualité. Le thème du vide qui imprègne le récit semble par ailleurs servir de métaphore à l'asexualité. Tout au long du texte, Amy se voit comme une personne incomplète, vide et invisible dans un monde qui la méprise. Elle se dévalorise constamment, ce qui se manifeste dans son discours intérieur et dans ses relations avec autrui. Ce sentiment la pousse à rejeter l'intimité positive et à tolérer la maltraitance. Afin de surmonter sa peine psychologique, elle doit faire un effort important. Le monologue intérieur suivant révèle comment Amy se perçoit. Citation. Amy avait conclu qu'elle était une chose davantage qu'une personne, qu'elle ne disposait d'aucun intellect, qu'elle n'avait pas d'âme non plus, cette étrangeté évanescente qui avait l'air de donner du poids à ce qu'elle ne pouvait comprendre, cette dimension supérieure à laquelle elle n'avait pas accès. Fin de citation. De la même manière que la notion est présentée dans ce passage, les personnes asexuelles peuvent ressentir la déshumanisation à cause de la sexualité obligatoire. Les phrases à la forme négative démontrent l'enracinement profond des influences externes qu'intériorise Amy. Dans des espaces allonormatifs, le traitement de personnes asexuelles, considérées brisées et défectueuses, mène au sentiment de vide et d'invisibilité. Laberge discute de son inspiration pour la création du personnage d'Amy. Citation. Je pense que c'est un personnage qui m'est venu en réfléchissant au nombre de gens dans notre société qui sont invisibles pour les autres. On a le mépris assez facile. Si on n'est pas beau, si on n'est pas bien nanti, si on n'a pas l'âge glorieux de la jeunesse, on est moins visible. Je me demandais comment l'on faisait pour vivre quand personne ne nous voit et quand personne ne tient compte de nous. Fin de citation. En donnant la parole aux personnes invisibles dans notre société, y compris les femmes âgées, vulnérables et dociles, le récit devient un outil d'autoréalisation. C'est une façon de valider l'existence d'une telle personne devant la tendance sociétale à discriminer contre celles qui ne se conforment pas. Un récit qui propose des représentations positives et variées de l'asexualité permet une meilleure acceptation et appréciation d'une identité sexuelle fréquemment oubliée ou remise en question dans le discours courant. Il convient alors de se demander si la présence thématique de l'asexualité touche à la structure du roman. Traverser la nuit débute après qu'Amy s'inspire de Jackie afin de vivre pour elle-même, et le lectorat doit assembler les détails de son passé au cours de sa lecture. La divergence entre le temps du récit et le temps du discours crée une non-linéarité temporelle semblable à la découverte de soi qui ne suit pas toujours un chemin droit lorsqu'il s'agit de l'identité sexuelle. Elizabeth Hanson, quant à elle, décrit une structure narrative qui ouvre la voie à la présence sous-entendue de l'asexualité dans la construction d'un récit. Contrairement au désir narratif théorisé par Peter Brook, qui constate que le récit veut avancer vers la téléologie et la finitude, une structure narrative qui mimerait la sexualité résiste à ce mouvement, contredit l'intégrité narrative et empêche une finalité. Dans la perspective de Hanson, la logique de la sexualité fait que l'absence de l'attirance asexuelle n'a pas d'objectif, ni de cible, ni de tendance vers une direction ou une autre, ce qui perturbe le mouvement du récit. Pour elle, une structure narrative asexuelle est un récit dans lequel rien n'arrive, c'est-à-dire rien de conséquence. De ce fait, le récit se termine, mais le lectorat n'est pas satisfait sur le plan épistémologique, ce qui agit contre le désir narratif ou hétérosexuel qui promeut le mouvement vers une clôture significative. Dans « Traverser la nuit », la résolution du récit se présente dès la première phrase. Amy fuit son conjoint violent et se distancie de son passé traumatisant grâce au soutien affectif et financier de Jackie. Si l'intrigue principale comporte la transformation intérieure d'Amy, le récit n'avance pas vers une fin définie, c'est-à-dire que la clôture narrative est déjà atteinte au commencement de la lecture. La progression du livre saute entre le présent, voire la vie indépendante d'Amy, et le passé, qui raconte surtout son enfance et son emploi au centre d'accueil où elle rencontre Jackie. Le lectorat réarrange tous ces événements non linéaires afin de révéler le parcours qui a mené au résultat décrit au début du roman. En raison de la focalisation interne de la narratrice, le changement de l'attitude d'Amy est visible dans les moments d'introspection. L'intrigue est donc fondée sur la caractérisation de la protagoniste plutôt que sur la succession des événements. Amy passe d'une femme vulnérable et sans confiance à une femme qui prend sa vie en main et reconnaît sa valeur et son humanité, une idée encore une fois communiquée par le récit. Citation. Elle s'est cachée. Elle s'est même effacée aux yeux de ceux qui la voyaient et ne la méprisaient pas. Comme cette Lucette qui la regardait avec une joie authentique et qui lui octroyait un courage dont elle se sent indigne jusqu'à la moelle. Comme Jackie. Comme Raymond qui a deviné sans chercher à confirmer, sans chercher à la forcer au plus mince aveu, à la plus infime confidence. En tout respect de son rythme, de sa personne. Comme si elle était quelqu'un. Parce qu'elle est quelqu'un. Et qu'il est temps de cesser de se traiter en déchet. Fin de citation. La clôture narrative est donc la réalisation qu'elle mérite le respect et l'acceptation. Cela coïncide avec la découverte de soi ou avec sa reprise de force psychologique pour que son asexualité soit mise en valeur. Le résultat de ce voyage est déjà accompli avant que le récit commence. Bien qu'on atteigne une clôture au niveau de l'évolution psychique d'Amy, le récit ne favorise pas le désir narratif en tant que structure narrative traditionnelle. La perspective novatrice de Hanson peut nous faire penser aux traces asexuelles dans la structure d'un récit et aux façons dont la possibilité de l'asexualité informe sa construction. Ajoutons qu'une stratégie d'écriture asexuelle, en tandem avec des stratégies de lecture queer, montre que l'asexualité ne se manifeste pas tout simplement dans le contenu thématique, mais qu'elle devient également une partie intégrale du texte lui-même. Conclusion. Dans « Traverser la nuit », le récit fonctionne comme un miroir de soi pour qu'un lecteur ou une lectrice puisse s'identifier à un personnage qui partage son identité. L'intervention du lectorat est particulièrement importante pour la lecture de la sexualité implicite, car quelqu'un, quelqu'une, peut s'insérer dans un texte en s'appuyant sur les éléments textuels qu'il appelle. Une lecture queer soutient la sexualité probable d'Amy. Selon mon analyse, son indifférence envers le sexe, son désir de se lier autrement et ses sentiments de vide et de non-appartenance sont enracinés dans la structure du texte et évoquent justement son orientation sexuelle. Cependant, il reste à déterminer si les traces asexuelles lisibles dans Traverser la nuit rendent justice à la sexualité. Pour les lecteurs et lectrices qui font une lecture moins queer, Yel n'en verrait peut-être aucune. Évidemment, il n'est pas possible de saisir toutes les expériences individuelles asexuelles avec une seule représentation littéraire, car chacun et chacune interagit avec le monde et aborde sa quête identitaire de façon unique. Pour ne pas mettre toutes les personnes asexuelles dans une même case, Chazen suggère qu'il faut reconsidérer les définitions de l'asexualité qui promeuvent involontairement la supériorité de l'allosexualité, en partie parce que ces définitions exercent une pression à être une asexuelle légitime. S'il existait une plus grande palette de représentations de l'asexualité, les lecteurs et lectrices qui s'identifient à certains aspects de cette orientation sexuelle pourraient se sentir plus visibles. De plus, normaliser sa présence dans la littérature et les médias participerait à démystifier cette sexualité non normative. À l'avenir, j'espère voir une inclusion plus étendue des personnages asexuels dans la littérature francophone, surtout des représentations positives et visibles qui mettent en valeur les personnes asexuelles ou du moins qui ne mise pas tant sur l'aspect sexuel normatif de l'identité pour valoriser le personnage et, par extension, le lecteur ou la lectrice. C'était « Se voir entre les pages d'un livre », une lecture asexuelle de « Traverser la nuit » de Marie Laberge, un texte d'Émilie Goulat paru le 29 mai 2023 dans « Voix plurielle ».